Généralement, quand on parle d'un diagnostic médical, on s'attend toujours à une certaine précision, enfin un truc assez binaire. C'est presque de l'ingénierie en fait.
Ouais, on aime bien quand c'est clair.
Voilà, on a une douleur au bras, on fait une radiographie, on voit une belle ligne blanche sur l'os, et là le médecin pointe du doigt et dit « bon bah voilà le problème, l'os est fracturé, on met un plâtre et c'est réglé ».
C'est le côté rassurant de la médecine, le diagnostic direct.
Exactement. L'esprit humain adore ça. On aime ce qui est visible, ce qui rentre dans des cases et surtout ce qu'on peut réparer avec une méthode super simple.
Sauf que le vrai problème, c'est quand on essaye d'appliquer cette même logique très chirurgicale, pour le coup, à des systèmes qui sont infiniment plus complexes. Genre la macroéconomie ou même la structure globale de notre société.
Et c'est fou parce que c'est exactement ce qu'on fait en permanence avec l'industrie.
Ah mais carrément!
Une usine ferme, du coup un bassin d'emploi souffre, on regarde la, disons, la radiographie, notre économie locale, et là, la solution semble évidente. Le bras est cassé, donc il faut ramener l'usine.
La fameuse relocalisation industrielle.
C'est ça. Partout, dans tous les discours, c'est vu comme le remède miracle, l'évidence absolue pour soigner toutes nos crises.
Ouais.
Sauf que, et c'est là que ça devient passionnant, les sources de notre plongée d'aujourd'hui prennent cette radiographie, l'examinent sous un angle mais totalement différent et affirment l'exact opposé.
C'est vraiment le cœur du sujet.
On se base sur un ensemble d'articles, de notes comparatives et d'infographies systémiques qui ont été signés par le prospectiviste Thierry Curti. Et la thèse qu'il défend est brutale. Il dit en gros que relocaliser notre industrie traditionnelle, ce n'est pas une fausse bonne idée, c'est carrément une catastrophe.
Et d'ailleurs, juste pour poser le cadre, avant qu'on plonge vraiment là-dedans, ces textes, ils tapent fort.
Ah oui, très fort.
Ils remettent en question des décisions politiques massives, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui. Et ça n'épargne absolument aucun bord idéologique, de l'extrême gauche à l'extrême droite.
C'est clair.
Et donc notre mission, au cours de cette analyse approfondie, ce n'est pas de décerner des bons points. On n'est pas là pour valider ou condamner cette vision. L'objectif, pour tout esprit curieux, c'est vraiment de décortiquer la mécanique de cette provocation intellectuelle. Comprendre la logique interne qui pousse à affirmer qu'une usine flambant neuve sur notre sol, ça pourrait être un désastre économique et écologique.
Bon, décortiquons un peu tout ça alors. Parce que le bon sens populaire nous hurle que ramener les usines à la maison, bah, c'est ramener de l'emploi, de la sécurité, de la prospérité. Comment une idée aussi intuitive peut-elle être un piège ?
En fait, pour saisir ce raisonnement, la première étape des documents nous oblige à faire un vrai saut dans le temps.
On retourne au siècle dernier, c'est ça ?
Absolument. Il faut comprendre comment, historiquement, notre société est devenue, et le mot n'est pas trop fort, littéralement obsédée par la notion de l'emploi. La clé, on la trouve dans les notes comparatives entre le XXe et le XXIe siècle.
D'accord.
Il faut se projeter juste après la Grande Dépression, vers 1929. À cette époque-là, l'immense majorité de la population n'avait qu'une seule chose à vendre, sa force physique, ses bras, quoi.
Ouais, le travail manuel pur et dur.
Sauf que le capitalisme naissant s'est retrouvé complètement bloqué. Les usines commençaient à produire en masse, mais presque personne n'avait de salaire régulier pour acheter tous ces nouveaux produits.
C'est le paradoxe de base.
Voilà. La solution systémique, ça a été de créer de toutes pièces la société de consommation.
Donc, l'idée, si je résume, c'était vraiment de boucler la boucle. Il fallait que tout le monde ait un salaire pour pouvoir acheter la production des usines.
Exactement.
Donc on a dû concevoir des biens, idéalement pas trop chers, et surtout, et ça c'est crucial, qui s'usent ou se démodent assez vite.
Ah oui, la fameuse obsolescence.
Voilà. Comme ça, bah, il faut les refabriquer, ce qui garantit du travail, donc un salaire, donc un pouvoir d'achat, et on recommence. Une boucle infinie.
C'est tout à fait ça. Et cette boucle, elle a tenu pendant des décennies grâce à une anomalie physique exceptionnelle. L'énergie était presque gratuite.
Ah, le charbon, le pétrole ?
Oui. Ça coûtait si peu cher que ça masquait un fait biologique incontournable. Le travail physique humain est extrêmement inefficace.
C'est-à-dire ?
Ben, un être humain qui pédale sur un vélo, par exemple, ça génère à peine assez d'électricité pour allumer une grosse ampoule. Alors qu'un seul baril de pétrole contient l'équivalent de des milliers d'heures de travail humain.
Ah ouais, la différence est dingue.
Et donc, tant que l'énergie ne valait rien, on pouvait s'offrir le luxe de payer des humains pour faire des tâches répétitives dans des usines. Mais là, l'auteur met en avant un graphique qui est fondamental. Il l'appelle productivité versus employabilité.
Et c'est vraiment là qu'on visualise la rupture.
Sur ce graphique, il y a deux courbes.
Ouais.
Au sortir des Trente Glorieuses, on voit la courbe de la productivité qui, dopée par l'automatisation, l'informatique puis les robots, elle part en flèche vers le haut. On crée beaucoup plus de richesses avec beaucoup moins d'efforts.
Tout à fait. Mais l'autre courbe, celle de l'employabilité, c'est-à-dire la quantité d'heures de travail humain strictement nécessaire pour produire cette richesse, elle plonge vers le bas à une vitesse vertigineuse.
La machine remplace le muscle, c'est mathématique. Le système n'a presque plus besoin du travail physique humain de masse pour générer la production matérielle. Et c'est précisément ici que la société a paniqué.
Pourquoi paniquer si on produit plus ?
Parce que tout notre modèle d'État-providence, le financement des retraites, la sécurité sociale, les écoles, tout ça repose sur un prélèvement. On taxe le salaire. Si l'humain n'est plus indispensable à la chaîne de production, le salaire disparaît et tout l'édifice social s'effondre avec.
Ah ! Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tant de gens ont l'impression, cette impression intime de faire un travail qui ne sert strictement à rien.
C'est ça.
On lit tellement de témoignages de gens qui passent leur journée à, remplir des tableurs Excel, à organiser des réunions pour préparer d'autres réunions juste pour justifier leur présence.
Ce que les sociologues appellent les « bullshit jobs ».
Exactement. En gros, on maintient les gens dans l'emploi, non pas parce qu'on a besoin de leur force productive, mais parce qu'on a besoin de justifier le fait de leur verser de quoi vivre à la fin du mois. C'est quand même un peu absurde.
C'est devenu un dogme, une véritable religion d'État. Le texte souligne une inversion totale des valeurs économiques de base. À l'origine, le but d'une entreprise, c'est pas de créer de l'emploi.
Non, c'est de produire quelque chose.
Son but, c'est de créer de la richesse, de l'innovation, de la valeur ajoutée. Et c'est cette richesse générée qui doit ensuite irriguer la société. Mais en exigeant de l'emploi à tout prix, même quand cet emploi est technologiquement obsolète, on a enclenché une mécanique de destruction massive.
Une destruction à la fois financière et écologique, si je suis bien les sources.
Absolument.
Alors arrêtons-nous sur ce plan financier, parce que c'est lourd. Si l'on suit le raisonnement, s'acharner à maintenir des vieilles usines sous perfusion ou forcer leur relocalisation chez nous, ça se paie. Et selon cette théorie, le prix, c'est la ruine pure et simple des États.
Et les chiffres le montrent. Il suffit de regarder l'explosion de la dette souveraine depuis la fin des années 70. À partir du moment où les chocs pétroliers ont rendu l'énergie chère, l'équation de départ s'est brisée.
L'énergie n'était plus gratuite.
Voilà. L'industrie traditionnelle occidentale n'était tout simplement plus rentable. Mais pour éviter des millions de chômeurs, les États sont intervenus massivement pour maintenir l'illusion.
D'accord.
La théorie exposée ici prend l'exemple des premières années de la présidence de François Mitterrand. Pour financer de vastes plans de maintien dans l'emploi ou même des nationalisations industrielles, on a laissé filer l'inflation jusqu'à 11%.
Mais attendez, juste pour que tout le monde suive, comment est-ce que l'inflation permet de sauver des usines en fait ?
C'est un mécanisme presque caché. L'inflation permet de ronger artificiellement le poids de la dette et de financer l'économie en dévaluant la monnaie. En gros, c'est une taxe invisible sur l'épargne.
Ah ouais, malin, mais dangereux.
Très dangereux. Cette arme a ses limites. À partir du milieu des années 80, on ne pouvait plus jouer sur ce levier sans risquer un effondrement total de la monnaie. Donc la seule solution qui restait, ça a été de s'endetter directement sur les marchés financiers.
Et c'est là que l'hémorragie commence vraiment.
Voilà.
Ce qui m'amène à cette référence dans les textes, cette fameuse phrase d'Emmanuel Macron qui s'agaçait de voir un pognon de dingue injecté dans les aides sociales sans pour autant résoudre la pauvreté.
Oui, et l'analyse de l'auteur là-dessus est très intéressante.
Oui, la thèse de Thierry Curti, c'est que cet argent n'est pas gaspillé par les individus eux-mêmes, il est englouti par le système pour perfuser un modèle industriel périmé. On accumule les subventions directes, les crédits d'impôt massifs, les chèques énergie.
Tout ça pour compenser.
C'est ça. Pour compenser le fait que ces entreprises ne sont plus naturellement compétitives face à des machines ou face à d'autres économies qui sont beaucoup plus adaptées.
On est dans de l'acharnement thérapeutique, mais à l'échelle d'une nation entière. Et le mécanisme va encore plus loin quand on regarde les politiques monétaires. Les banques centrales ont passé des années à baisser leurs taux directeurs, parfois jusqu'à zéro, voire en territoire négatif.
Et c'est ce point technique qu'il faut vraiment éclaircir. Concrètement, baisser les taux à zéro, ça revient à donner de l'argent gratuit, sous forme de crédit, à des entreprises qui, dans un marché normal et concurrentiel, feraient faillite.
C'est exactement l'inverse d'une économie saine, oui. On crée ce qu'on appelle des entreprises zombies.
Des zombies car elles sont mortes, mais marchent encore.
C'est l'idée. Des structures qui ne génèrent même plus assez de profits pour rembourser le capital de leurs dettes. Elles survivent uniquement parce que l'intérêt de leur emprunt est à zéro. L'auteur alerte beaucoup là-dessus. La nature de l'économie est cyclique.
Donc les taux finissent toujours par remonter.
Exactement. Et quand ils remontent, pour contrer l'inflation, tout ce tissu industriel artificiellement maintenu en vie s'effondre. Le risque majeur, c'est d'entraîner tout le système bancaire dans cette chute.
Waouh ! C'est déjà vertigineux sur le plan financier, mais y a un autre argument dans ces notes qui m'a fait complètement bugger.
L'argument écologique ?
C'est ça, hein ? C'est peut-être la chose la plus contre-intuitive de tout le dossier. On nous répète en boucle tous les jours que c'est notre soif de croissance qui détruit la biosphère, qui épuise les ressources. Et là, le texte dit que non, le vrai coupable, ce serait la sauvegarde de l'emploi de masse.
Ouais, et la logique derrière cette affirmation est vraiment implacable. Il faut se poser la question, qu'est-ce que la croissance fondamentalement ?
Bah, c'est la création de valeur.
Oui, c'est une mesure de valeur. C'est un concept qui est complètement dématérialisé. On peut avoir une croissance énorme basée sur du logiciel, du design, de la recherche scientifique.
Sans détruire de matière.
Des millions de mains occupées chaque matin de 8h à 17h.
Bah, il vous faut de la matière première.
Exactement.
Il faut arracher du minerai à la terre, le fondre, le transformer, l'emballer.
Oui, ça exige une extraction permanente. En fait, pour justifier l'emploi physique, on est condamné à fabriquer frénétiquement des montagnes d'objets qui sont souvent jetables ou avec une obsolescence programmée.
C'est vrai que si on fabriquait des téléphones ou des frigos prévus pour durer, 50 ans sans jamais tomber en panne...
Bah, les usines fermeraient par manque de demande.
Et l'emploi s'effondrerait.
C'est la conclusion de l'auteur. Le maintien idéologique de l'emploi de masse est, par nature, la force motrice de l'extractivisme qui ravage la planète.
C'est fou de voir les choses comme ça. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si on suit cette logique jusqu'au bout, on est dos au mur. Maintenir ces vieilles usines chez nous nous ruine à cause des subventions et de la dette. Ça crée des entreprises zombies prêtes à exploser. Et cette frénésie de production détruit l'environnement juste pour occuper les gens.
C'est le cul-de-sac du vieux modèle.
Sauf que, psychologiquement, l'idée de les laisser fermer, ces usines, c'est terrifiant. Alors concrètement, qu'est-ce que l'auteur propose qu'on en fasse ?
Et c'est là qu'intervient l'éloge pure et simple de la délocalisation.
Ah.
La proposition est radicale. Il faut s'en débarrasser. Il faut accepter de transférer ce que le texte nomme les productions triviales vers d'autres continents.
Alors là, je vous arrête tout de suite parce que c'est le moment où ça grince sévère.
Je m'en doute.
C'est très beau, très clinique sur le papier de dire « on délocalise la production triviale ». Mais sur le terrain, dans la vraie vie, ça veut dire des vallées entières qui se retrouvent au chômage, des familles qui perdent tout. C'est perçu comme un vol de notre savoir-faire, un sacrifice sur l'autel de la mondialisation. Comment on peut justifier une telle violence sociale ?
Le texte ne nie absolument pas la douleur immédiate de cette transition. C'est pas magique, mais il invite à regarder le tableau global. Une production triviale, dans ce contexte, c'est une industrie qui ne nécessite plus d'innovation majeure.
C'est de la répétition.
C'est de l'exécution répétitive pour une économie très avancée, avec un coût de la vie très élevé comme le nôtre. Garder cette production, c'est un boulet. Pour rester compétitif face au reste du monde, cette usine locale va constamment devoir tirer les salaires vers le bas et exiger des baisses d'impôts.
C'est la course vers le fond.
En revanche, et c'est vraiment la clé de voûte de cette théorie, délocaliser n'est pas une perte. C'est un transfert de développement indispensable pour créer un modèle mondial gagnant-gagnant.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'analogie qui est utilisée dans les sources pour illustrer ça, elle est super parlante.
Celle des vêtements ?
Oui, comparée à la gestion des vêtements dans une famille. Imaginez qu'on grandit et que nos vêtements d'enfant deviennent trop petits. Ça nous serre, ça nous étouffe.
On n'est plus à l'aise.
La pire chose à faire, ce serait de refuser de s'en séparer et de s'acharner et essayer de rentrer dedans tous les matins. Ce qu'on fait, logiquement, c'est qu'on les donne à un petit frère ou une petite sœur.
C'est le cycle naturel.
Voilà. Pour nous, ça libère de l'espace dans notre placard pour des habits à notre taille. Mais pour le petit frère, ces vêtements sont vitaux. Ça l'aide à grandir, à se protéger. Et en grandissant, bah, il devient un adulte avec qui on pourra un jour échanger sur un pied d'égalité.
Et cette métaphore s'applique parfaitement à la macroéconomie. Quand on transfère une industrie basique vers un pays émergent, on ne fait pas que déplacer de vieilles machines. On oblige ce pays à fournir un effort colossal.
Il doit s'adapter.
Pour accueillir cette usine, il doit construire des routes, déployer des réseaux électriques stables, asphalter des ports et surtout créer des filières de formation pour sa propre population. Mécaniquement, on propulse le niveau de vie de ce pays. On enrichit ses citoyens.
Ce qui résout une équation majeure. Si on s'enferme dans un protectionnisme total et qu'on empêche le reste du monde de s'industrialiser et de s'enrichir, à qui est-ce qu'on va vendre nos propres technologies avancées dans 10 ou 20 ans ?
À personne, puisqu'ils n'auront pas les moyens de se les offrir.
Exactement.
Et pire encore, si on empêche les pays émergents de capter cette base industrielle et de générer de la richesse, comment est-ce qu'ils pourront financer leur propre transition écologique? L'écologie, construire de nouvelles infrastructures propres, ça coûte extrêmement cher.
Donc, vouloir tout relocaliser chez nous,
c'est non seulement nous appauvrir, mais c'est condamner une grande partie de la planète au sous-développement et à l'impossibilité de dépolluer ses propres systèmes.
D'accord, l'argument du développement mondial, franchement, il se tient. Mais la question qui brûle les lèvres reste entière. Si l'on donne ces millions d'heures de travail physique à l'étranger pour faire de la place dans notre économie et les aider à grandir, comment les gens vivent-ils ici?
C'est la grande angoisse.
Bah oui, on ne peut pas avoir une société uniquement composée de chômeurs qui regardent des usines tourner à l'autre bout du monde sur des écrans. Par quoi est-ce qu'on remplace ce vide concrètement?
Par ce que les sources appellent la cinquième révolution industrielle et le passage au capital cognitif.
Le capital cognitif?
Oui, il y a une cartographie frappante dans les documents intitulée « Contributisme », qui divise l'histoire économique en trois grandes ères.
Ok.
Il y a eu le féodalisme, où l'humain était asservi à la terre, dispersé autour d'une couronne centrale. Ensuite, il y a eu le capitalisme du XXe siècle, avec de très fortes densités de population, agglomérées autour de gigantesques usines physiques.
Et la troisième?
L'ère dans laquelle nous entrons, c'est le contributisme.
C'est-à-dire une société où l'humain n'est plus évalué sur sa force de frappe, mais sur son éducation et son intelligence.
Exactement.
L'idée forte ici, c'est qu'utiliser un être humain du XXIe siècle, qui a accès à un savoir universel via Internet comme une simple machine-outil pour serrer des boulons ou emballer des cartons, bah c'est un immense gaspillage cognitif.
Et c'est le nœud de la transition. Le travail intellectuel, l'innovation, la conception, l'organisation en réseau, c'est ce qui crée de la valeur exponentielle aujourd'hui.
Pour essayer de visualiser cette transition douloureuse, on pourrait imaginer une ruche géante.
Une ruche géante?
Ouais. Pendant des milliers d'années, l'écrasante majorité des abeilles devaient rester à l'intérieur pour construire physiquement les alvéoles de cire, goutte par goutte. C'était épuisant, mais c'était vital pour survivre.
D'accord.
Et un jour, un mécanisme automatisé prend le relais et construit la cire parfaitement à leur place. Le réflexe paniqué de la ruche, c'est de dire « Mon Dieu, les bâtisseuses n'ont plus rien à faire, on va mourir ».
C'est notre père du chômage.
C'est ça. Mais l'enjeu de cette cinquième révolution, ce n'est pas de laisser les bâtisseuses inactives sur le canapé. C'est de les transformer en éclaireuses, de les faire sortir de la ruche pour explorer de nouveaux territoires, trouver de nouvelles sources de pollen, inventer de nouvelles architectures.
C'est une belle image.
Le drame et la violence sociale actuelle, c'est qu'on ne transforme pas une abeille bâtisseuse en abeille éclaireuse du jour au lendemain. Ça demande une refonte totale de l'éducation et de la formation.
Et cette métaphore illustre parfaitement le défi. Mais cela soulève une question cruciale, l'ultime question mécanique du dossier, en fait.
Laquelle?
Comment l'État finance-t-il cette nouvelle ruche? Si la majorité de la production est automatisée ou délocalisée, et que le travail salarié classique, physique, se raréfie au profit de contributions intellectuelles ou de tâches non quantifiables en heures pointées, sur quoi est-ce qu'on prélève l'impôt pour payer les routes et les hôpitaux?
Ah oui! Si l'État continue de s'acharner à taxer principalement le salaire humain, alors que celui-ci disparaît, bah les caisses seront inexorablement vides.
Précisément. La théorie systémique proposée par Thierry Curti, c'est que l'État doit arrêter de chercher sa ressource sur l'emploi. Il doit capter directement la richesse globale là où elle est produite sur le PIB.
Directement sur la richesse produite.
Voilà. Avec l'intelligence artificielle et l'automatisation, la valeur créée, le PIB, ne cesse d'augmenter. C'est cette valeur globale générée par le système technique et intellectuel qui doit être captée à la source pour financer le modèle social de manière inconditionnelle. On découple enfin le droit de vivre de l'obligation de fournir un effort physique contraint.
C'est fascinant. D'ailleurs, la frise chronologique à la fin du dossier remet vraiment les choses en perspective.
Oui, la timeline historique.
Quand on regarde l'évolution, depuis le chasseur-cueilleur jusqu'à la civilisation numérique, la trajectoire est évidente. Le but ultime de l'humanité, depuis l'invention du levier et de la roue, ça a toujours été de s'émanciper du labeur physique épuisant.
Et c'est paradoxal, n'est-ce pas? Nous avons passé des millénaires à construire des machines pour nous libérer du travail physique, et maintenant que nous y sommes presque, nous sommes terrifiés par cette liberté au point de vouloir relocaliser nos propres chaînes industrielles pour se forcer à travailler.
C'est un peu le syndrome de Stockholm avec notre propre labeur.
C'est ce que l'auteur définit comme le blocage vers l'épanouissement humain, une ère où l'intelligence serait dédiée à la préservation écologique et à l'innovation plutôt qu'à l'assemblage de pièces plastiques.
Eh bien, il est temps de rassembler les pièces de ce puzzle complexe. Cette exploration nous a emmenés à des années-lumière des discours politiques traditionnels qu'on entend tous les soirs aux journaux télévisés.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Nous avons vu que le dogme de l'emploi à tout prix est un héritage d'un XXe siècle dopé au pétrole bon marché. Que s'accrocher à nos vieilles usines nous pousse à un endettement suicidaire et alimente une extraction matérielle qui ravage la planète.
Un vrai cercle vicieux.
Si on suit cette grille de lecture systémique, la délocalisation n'est plus une trahison, mais un outil vital. Un outil pour forcer le développement des pays émergents et financer leur transition, tout en nous obligeant, nous, à basculer pleinement dans une économie de la connaissance.
La fracture réelle n'est donc pas la désindustrialisation physique de nos territoires. La véritable fracture, c'est notre inertie psychologique.
Bien dit.
C'est notre incapacité collective à imaginer et à organiser un système social qui ne reposerait plus sur l'impôt de labeur et la sueur des cols bleus, mais sur le partage d'une richesse exponentielle générée par la technologie.
Ce qui m'amène à une réflexion finale. Une idée qui mérite, je pense, qu'on la laisse infuser bien au-delà de cette analyse. Pendant des générations, on a défini qui on était par ce qu'on faisait.
C'est vrai.
On était le forgeron, l'ouvrière, le comptable. Notre identité sociale tenait dans ces 35 ou 40 heures passées physiquement au même endroit. Si l'on accepte cette nouvelle radiographie du monde, comment allons-nous redéfinir notre utilité ? Dans un avenir très proche, où notre valeur résidera dans ce que nous sommes, les liens que nous créons et les idées que nous brassons, plutôt que dans la quantité de matière que nous transformons de nos mains. Qui allons-nous choisir de devenir ?